Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Et vous avez la parole, vous le savez, comme tous les jours. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi, avec à la une aujourd'hui le projet de loi pouvoir d'achat présenté cet après-midi en Conseil des ministres. Aurélien Fleureau va nous préciser ce qu'il contient. Et puis Arthur Delaborde nous dira quel groupe politique pourrait voter ce texte avec la majorité. On ira à Londres où Boris Johnson devrait annoncer dans les prochaines heures qu'il va faire ses cartons du 10 Downing Street. La pression est devenue trop forte. Anaïs Cordoba en direct de Londres dans Europe Midi. Si vous vous apprêtez à acheter les fournitures scolaires de vos enfants dans les prochains jours, prochaines semaines, écoutez bien les recommandations de Yasmina Katou dans un instant. Yasmina qui nous dira que les autorités sanitaires alertent sur la composition chimique des crayons, des gommes et autres pots de colle. On ira à Avignon dans Europe Midi pour le lancement du festival. Le pouvoir d'achat, quelles sont vos solutions? Vous appelez le 3921 et vous passez à l'antenne. On sera également avec Sylvain Maillard. Bonjour Sylvain Maillard.
Bonjour à vous, bonjour à tous.
Député Renaissance de Paris et avec Bastien Lachaud, député NUPES de Seine-Saint-Denis qui va nous rejoindre dans un instant. À tout à l'heure.
Europe 1.
On en parle depuis des semaines, le projet de loi sur le pouvoir d'achat arrive sur la table du Conseil des ministres cet après-midi. Et ce matin, sur Europe 1, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a apporté des précisions sur l'une des mesures phares du texte, à savoir l'indemnité carburant travailleur. Aurélien Fleureau avec nous, cette indemnité entrera en vigueur le 1er octobre.
Oui, effectivement, c'est désormais plus clair. Le coup de pouce de 18 centimes pour tout le monde à la pompe sera progressivement remplacé par cette nouvelle aide, plus ciblée, comme l'a détaillé Bruno Le Maire ce matin sur notre antenne.
Quel est le choix politique, très politique, que nous faisons ? Soutenir ceux qui travaillent. Le salarié qui va à son entreprise, il ne doit pas avoir de problème pour faire son plein. Donc nous allons remplacer les 18 centimes, qui progressivement, d'ici la fin de l'année, vont être ramenés à 16, 12, 10, on va le faire très progressivement, mais à la fin de l'année, il n'y aura plus de remise carburant. Et dès le 1er octobre, en tout cas c'est la proposition que nous faisons, nous mettons en place cette indemnité carburant.
Et pour en bénéficier, il faudra vous rendre sur le site des impôts, déclarer que vous avez une voiture dont vous vous servez pour aller travailler. Les services de l'État vérifieront et vous toucherez donc ce chèque carburant, dont le montant n'a pas encore été défini, mais ce sera probablement entre 60 et 100 euros, dispositif qui coûtera 2 milliards d'euros à l'État. Et si vous roulez plus de 12 000 km par an, là, eh bien, vous pourrez profiter en plus d'une indemnité gros rouleur. L'objectif sera de couvrir presque intégralement les frais de carburant, a promis ce matin le ministre de l'économie.
Aurélien Fleureau, merci Aurélien. Alors, une aide pour les travailleurs les plus modestes, mais une ristourne de 18 centimes sur le litre de carburant qui va disparaître progressivement. La nouvelle fait forcément réagir les automobilistes, alors que les prix à la pompe ne baissent pas vraiment, comme les automobilistes, comme ceux qu'a rencontré ce matin Alexandra Gégy pour Europe 1.
C'est un petit peu dommage, ça va tous réduire notre pouvoir d'achat.
Bah, c'est une ségrégation entre guillemets.
Là je fais le plein pour aller en vacances par exemple, ça me concerne pas. Donc bon, c'est une bonne initiative pour ceux qui utilisent leur véhicule tous les jours. Par contre pour nous, elle ne sert à rien en fait. C'est comme si elle n'existe pas.
C'est un cache-misère et c'est pas ça qui changera beaucoup. Tout ça est totalement artificiel.
C'est pas normal parce qu'on paye tous les nourritures, les enfants, les charges.
Et regarde, c'est pas donné.
Voilà, des réactions contrastées qu'on va commenter dans un instant. Et dans Europe Midi, réaction recueillie donc par Alexandra Gégy dans une station essence, une station-service parisienne. Ce projet de loi sur le pouvoir d'achat, c'est aussi le premier test politique pour un gouvernement sans majorité absolue à l'Assemblée. On l'a beaucoup dit, les députés vont examiner le texte à partir du 18 juillet. Certains groupes d'opposition poussent pour que leurs propositions y soient intégrées. Arthur Delaborde avec nous. Bonjour Arthur.
Bonjour Romain. Bonjour à tous.
Sur un sujet aussi important, pressant que le pouvoir d'achat, doit-on s'attendre à un compromis peut-être plus facile à trouver que sur d'autres sujets?
Eh bien, pas vraiment. La tâche s'annonce particulièrement difficile car chaque petit pas, chaque amendement éventuellement accordé à un camp vaudra la réprobation de l'autre. Exemple sur la question du SMIC, la NUPES réclame qu'il soit porté à 1500 euros net. On imagine mal l'exécutif faire une telle concession à l'alliance de gauche, d'autant qu'il sait que cela lui ferait perdre immédiatement les voix des Républicains. Le gouvernement risque donc de se heurter à cette logique sur tous les points de ce projet de loi sur le pouvoir d'achat. Et même si certains certains affichent leur bonne volonté, comme Marine Le Pen, qui s'est dite ce matin dans une démarche constructive et prête à voter le texte avec les députés du Rassemblement national. Son examen devrait surtout révéler au grand jour le blocage profond auquel est confrontée la représentation nationale. D'ailleurs, un grand nombre de macronistes reconnaissent que ce projet de loi ne sera pas représentatif de la future méthode de concertation. En réalité, le gouvernement veut agir vite et a assez peu consulté en amont, ce qui n'est pas l'idéal pour générer du compromis.
Merci Arthur Delaborde. Elisabeth Borne l'a annoncé hier pendant son discours de politique générale. Le gouvernement a l'intention de renationaliser EDF. En clair, l'État veut monter à nouveau à 100% du capital de l'entreprise. Des chantiers colossaux attendent l'énergéticien dans les prochains mois. Et pour les lancer, Bruno Le Maire a confirmé ce matin qu'il y aurait du changement au sein de la direction d'EDF, Carole Ferré.
Effectivement, le processus de succession est déjà lancé. C'est ce qu'a confirmé en effet le ministre de l'économie ce matin sur notre antenne. Alors ce n'est pas totalement une surprise, hein. Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, n'a pas démérité depuis sa prise de poste en 2014. Mais les relations avec le gouvernement s'étaient nettement tendues depuis la crise en Ukraine. Un courrier de soutien aux syndicats contre le projet du gouvernement sur le plafonnement des tarifs de l'électricité est très mal passé, par exemple. Ça ne s'est pas arrangé quand il a déposé un recours gracieux pour demander l'annulation de cette décision. Alors aujourd'hui, tout le monde se quitte en bons termes, mais l'État actionnaire a besoin d'un profil qui soit plus en adéquation avec ses projets. Le choix n'est pas encore fait, mais Bruno Le Maire a la fiche de poste bien en tête.
Il faut que ce soit quelqu'un qui maîtrise les grands programmes industriels et puis qui ait, pour reprendre un mot qui nous est cher désormais à tous, qui ait aussi le sens du compromis avec les organisations syndicales, avec la Commission européenne. Il va falloir que nous trouvions tous un compromis sur la transformation de cette entreprise.
Alors, le plus gros frein au recrutement du profil idéal, c'est le salaire. Il a été plafonné à 450 000 euros par an dans les établissements publics. Si cela paraît énorme au plus grand nombre, c'est loin d'être suffisant pour attirer les grands patrons les plus performants.
Carole Ferry, merci beaucoup Carole. Cette information, tiens, 4000 postes d'enseignants sont non pourvus cette année à l'issue des concours d'admission. C'est un chiffre révélé ce matin par le ministre de l'Éducation nationale. Statistique inquiétante, mais le ministre Papendia y rassure. Il y aura bien un professeur devant chaque classe dans toutes les écoles de France. Le recours aux contractuels sera donc notamment intensifié. Face à l'avalanche de démissions de ministres au sein du gouvernement britannique, Boris Johnson ne va finalement pas pouvoir rester, pas pouvoir tenir son poste, son siège. Selon la BBC, le Premier ministre britannique va démissionner de la tête du Parti conservateur, mais il pourrait rester chef du gouvernement jusqu'à l'automne. On en saura plus dans la journée. Anaïs Cordoba en direct avec nous. Bonjour Anaïs.
Bonjour, oui tout à fait.
Boris Johnson va s'adresser aux Britanniques dans les minutes ou les heures qui viennent, hein.
Oui, tout à fait. On attend une déclaration d'ici environ une heure. Boris Johnson devrait annoncer sa démission comme leader des conservateurs. C'est ce que rapportent tous les médias britanniques, même s'il n'y a pas encore de confirmation officielle sur ce point. Alors, selon les règles d'usage, s'il démissionne, il se maintient ensuite comme chef du gouvernement jusqu'à ce que le Parti conservateur élise un nouveau leader et donc un nouveau Premier ministre. Mais Boris Johnson suscite tellement de controverses que d'ores et déjà, avant même qu'il se soit exprimé, des élus conservateurs s'oppose à ce qu'il reste à la tête du gouvernement, ne serait-ce qu'un jour de plus. Il demande qu'un remplaçant soit nommé jusqu'à l'élection du nouveau leader qui devrait avoir lieu à la rentrée. Par tous ces aspects, cette démission de Boris Johnson est spectaculaire et hors du commun. Alors que ses ministres le lâchaient depuis mardi soir, 59 membres du gouvernement ont claqué la porte. Lui s'est accroché à son poste désespérément, jetant aux orties toutes les conventions de la politique britannique. Puis ce matin, les démissions se sont poursuivies à un tel rythme qu'il semblerait qu'il a littéralement été mis au pied du mur.
Anaïs Cordoba, en direct de Londres. Merci beaucoup Anaïs. Il est midi 9. Restez bien avec nous sur Europe 1, dans Europe Midi. Dans un instant, cette alerte sur la composition chimique des stylos, par exemple, mais aussi des gommes ou encore des pots de colle. Au moment où on commence à penser aux fournitures scolaires pour la rentrée, c'est important. On va en parler dans un instant avec Yasmina Katou. À tout de suite.
Europe Midi.
Romain Desarbres.
Vos enfants ont peut-être la fâcheuse habitude de mâchouiller leur stylo. Eh bien, soyez vigilants. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'Agence nationale de sécurité sanitaire alerte sur la dangerosité de certains produits chimiques présents dans la composition des fournitures scolaires. Yasmina Katou avec nous. Bonjour Yasmina.
Bonjour Romain.
Les autorités réclament l'application de règles plus strictes, c'est-à-dire ?
Eh oui, puisqu'aujourd'hui, il n'existe aucune réglementation spécifique pour encadrer la composition ou la fabrication des fournitures scolaires. Et ce, ni en France ni en Europe. L'Agence de sécurité sanitaire suggère d'appliquer les mêmes règles que pour les jouets, puisque les jouets sont portés à la bouche par les enfants. Et c'est bien là le problème. Prenons l'exemple d'une trousse dans laquelle il y a un stylo avec des paillettes, des feutres avec des odeurs de fruits. Oui, ça existe. Eh bien, les élèves les mâchent et ingèrent des substances toxiques pour la santé. Les risques sont plus ou moins graves. Ça peut aller d'une réaction allergique à de potentiels effets cancérigènes. Il y a aussi des risques à l'inhalation, par exemple lorsque les enfants reniflent les colles. Elles sont composées de phtalates qui peuvent entraîner des problèmes de fertilité plus tard. Le système d'alerte européen pour les produits non alimentaires dangereux a ainsi recensé depuis 2004 96 alertes concernant la colle.
Merci Yasmina. C'est valable pour les enfants, c'est valable pour les adultes
absolument
également.
Absolument, pour vous aussi Romain. Je vous vois mâcher devant parfois votre stylo.
Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire en vous écoutant. À propos d'école, merci Yasmina. Sachez à propos d'école que les vacances scolaires débutent officiellement ce soir. Vacances qui riment donc parfois aussi avec achat de fournitures. Prudence, si vous avez des glaces dans votre congélateur, Häagen-Dazs rappelle certains de ses pots à la vanille. Pourquoi ? Parce que Häagen-Dazs a détecté des traces d'oxyde d'éthylène, c'est un pesticide cancérigène. Les produits concernés sont les petits pots de 95 ml, les plus grands de 460 ml ou 650 ml, ainsi que les boîtes de 4 dans la gamme Vanilla Collection. Voilà. Souvenez-vous de cette image choc qui avait frappé le monde entier. L'un des plus grands ponts autoroutiers d'Italie qui s'était écroulé, entraînant dans sa chute des dizaines de voitures. C'était le 14 août 2018 à Gênes. 43 personnes avaient perdu la vie. Le procès de cette catastrophe du pont Morandi, c'est le nom de ce pont, le procès s'ouvre aujourd'hui. Il y a 59 prévenus et parmi les principaux enjeux, il y a le fait de déterminer la responsabilité de la société autoroutière Autostrade, Antonino Gallofaro. Hein.
Oui, c'est ce que veulent surtout les proches des victimes. Les familles veulent savoir qui se trouve derrière un drame qui aurait pu être, selon elles, évité. Aigle Possetti est la présidente du comité des victimes du pont Morandi. Elle a déjà les idées bien arrêtées.
Il y a eu un rapport indépendant ordonné par le juge qui définit les causes de l'effondrement. Il dit qu'il y a eu absence ou insuffisance d'entretien. On connaissait déjà la dangerosité de la structure depuis 2013 et rien n'a été fait.
Ce sont justement d'anciens dirigeants ou employés d'Autostrade pour l'Italie et de Spea, deux entreprises chargées de l'entretien du pont, qui se trouvent sur le banc des accusés. Ils se trouvent aux côtés de fonctionnaires qui étaient chargés de contrôler les travaux. 59 personnes au total sont accusées, entre autres, d'homicide involontaire, d'attentat à la sécurité des transports ou encore d'avoir provoqué volontairement l'effondrement du pont Morandi. Le procès s'annonce long. Le juge devra entendre pas moins de 180 témoins.
Merci beaucoup Antonino Gallofaro en direct de Rome, correspondant d'Europe 1 en Italie. Direction Avignon à présent, l'incontournable rendez-vous de tous les amoureux du théâtre débute aujourd'hui, le Festival d'Avignon. Elles sont plus de 1200 les compagnies à se produire pendant 3 semaines. Marie Jiquel, bonjour Marie, en direct d'Avignon.
Et bonjour Romain, bonjour à tous.
Parmi ces compagnies, beaucoup de jeunes compagnies qui font leur baptême du Festival d'Avignon entre galère et débrouille forcément. Hein.
Oui, des compagnies qui paient souvent de leur poche pour jouer et tenter d'attirer les producteurs. Avignon, c'est le Graal pour toutes les compagnies émergentes. Exemple avec cette troupe, la Générale Posthume, qui sort d'école. Bambou en fait partie et on la sent un peu stressée.
C'était mon rêve ultime de faire Avignon. C'est un truc de fou et là, voilà, on y est quoi et c'est génial.
Cette compagnie de trapézistes présente un spectacle de cirque nommé L'hiver rude. Et là, pour eux, c'est plutôt l'été rude. Venu de Châlons en Champagne, ils souffrent de la chaleur. Et puis, il y a déjà eu le trajet épique, comme le confie Elvis.
Concernant le décor, nous avons réalisé l'exploit de faire rentrer tout ce dont nous avions besoin dans un véhicule qui fait presque la moitié du volume habituel. Du coup, je suis partie de Châlons en Champagne avec un chargement, un Tetris quasiment parfait.
Un festival économique en camping. Il faut dire que pour monter ce spectacle de haute voltige, il a fallu débourser 40 000 euros pour pouvoir le jouer 12 fois. Bon, ils sont aidés par des partenaires et des subventions. Il faut par exemple louer la salle et faire face aux petites déconvenues. Elvis et Bambou.
Après, les galères, c'est une méga grosse organisation, c'est une grosse logistique. Bah, des fois, on n'a que 4 heures pour répéter, 2 heures par-ci, 1 heure par-là. Et on démonte notre spectacle tous les jours. Voilà, c'est techniquement que c'est très intense.
Des imprévus, mais la compagnie a des étoiles plein les yeux et espère attirer le public. Et vous savez comment on souhaite bonne chance dans le milieu du théâtre romain en lançant un juron, le mot de Cambronne. Je me garderai bien de le dire à l'antenne. Un juron auquel il ne faut surtout pas dire merci.
Voilà, bah en tout cas, moi je vous remercie, voilà, parce qu'on peut le dire dans le journalisme. Merci beaucoup Marie Jiquel, en direct d'Avignon. Allez, la météo avec Marlène Duret. Marlène Duret qui va nous dire ce qui nous attend aujourd'hui, Marlène.
Et oui Romain, c'est un ciel partagé entre nuages et soleil qui nous attend du Finistère à la Normandie, à l'Île-de-France. Et en continuant vers les Hauts-de-France, le Grand Est et plus au sud aussi, vers la Sologne, la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'aux portes de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Retour de belles éclaircies également du Pays Basque au Béarn. Partout ailleurs, c'est le beau temps qui se poursuit. On notera simplement une averse dans les Alpes du Sud et puis en Haute-Corse aussi des averses sur le relief qui peuvent tourner à l'orage. Les températures ne dépasseront pas les 20 à 23 degrés en bord de Manche. Ailleurs, il fera généralement 24 à 30 degrés et toujours jusqu'à 30 à 35 autour de la Grande Bleue.
Marlène Duret, merci Marlène. Midi 18, restez bien avec nous dans un instant. On va parler du pouvoir d'achat. Je voudrais vous entendre. Quelles sont vos propositions? Vous appelez le 3921 et vous passez à l'antenne. On est avec Bastien Lachaud qui nous a rejoint, député NUPES. Bonjour,
bonjour.
Bastien Lachaud, la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris. Vous étiez là dès midi, monsieur le député Renaissance. Voilà, allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite.